Et Jean-Paul II disait encore, il faut s'engager inlassablement à former la conscience morale des fidèles, afin que leurs œuvres de charité soient le fruit et le signe d'une foi mûre qui s'alimente constamment à la source inépuisable de l'amour du Christ. L'écoute de la parole de Dieu et la célébration de l'Eucharistie avec l'effusion de l'Esprit-Saint, nouvelle loi des croyants, sont les voies privilégiées et auxquelles on ne peut absolument pas renoncer pour vivre et témoigner de l'évangile de la charité. C'est bien de se reposer de temps en temps quand Jean-Paul II écrit des textes. C'est pas seulement des histoires qui datent à un moment donné particulier du temps dans lequel nous avançons. C'est vrai que régulièrement, il nous redit des choses, mais c'est vraiment pour nous secouer. Parmi les choses qui vont faire obstacle à cette secousse, c'est la tiédeur. Un des premiers obstacles à la vie spirituelle est vraiment la tiédeur. C'est-à-dire, d'abord, la tiédeur part d'une inattention, d'une non-vigilance. Vous savez, dès qu'on est distrait, dès qu'on commence à rêver, qu'on commence à partir ailleurs dans l'imagination, c'est le premier fruit, première source de la tiédeur qui tue la vie spirituelle en nous, qui tue la ferveur, nous fait nous dépenser inutilement dans des choses qui ne valent pas la peine. Cette espèce de divagation de l'âme, de l'esprit un peu partout, cette inattention à l'instant présent, à la présence de Dieu, à la correction que Dieu opère dans ma vie. Parce qu'elle nous conduit, vous savez, avec des liens de tendresse. Ce sont des liens qui tirent un petit peu, mais ils sont de tendresse. Et quand les liens tirent très fort, ça veut dire qu'on est en train de partir vraiment dans le mauvais sens. Et on sent, c'est-à-dire qu'on devient triste, on devient accablé, il y a une colère qui monte en nous, il y a une violence, il y a une agressivité qui est là. Tout ça, c'est le fait du lien qui tire un petit peu sur nous. Mais c'est nous qui, comme un chien infidèle, veut aller à un autre lieu que là où nous conduit le maître. Vous savez, les liens se font sentir fortement dans la mesure où je ne vais pas dans la bonne direction, celle du maître. Et par conséquent, eh bien, j'en ressens la force. À côté de ça, il y a aussi cette tentation de partir dans l'imagination. Vous savez que Pascal dit, finalement, l'homme qui ne se convertit pas n'arrête pas de se divertir. Et quand on regarde notre société actuelle, je crois que c'est vraiment ça. Il y a deux possibilités. Ou on se convertit, c'est-à-dire que où on rassemble toutes nos forces, toute notre énergie, notre pensée, notre intelligence, notre volonté, tout vers le cœur de Dieu, de façon à ce que tout découle de lui, ou alors on se divertit. Et Pascal avait cette phrase, un rien est capable de divertir les gens. Ils sont capables de passer des heures à regarder une boule rouler par terre. Je ne sais pas à quoi vous allusion, le football n'existait pas encore. Mais nous étions à Toulon, à la célébration de la vie consacrée avec l'évêque de Toulon, Fréjus, à la cathédrale, dimanche après-midi dernier, le 1er février. Nous étions un certain nombre de personnes à nous diriger vers la cathédrale pour rendre grâce au Seigneur, pour le don de la vie consacrée, pour tout ça. Et puis, il y avait une foule immense qui se rendait juste dans l'autre sens pour le match de football. Et moi, j'avais parqué la voiture juste à côté du terrain de football. Et tout d'un coup, j'ai entendu une ovation montée dans le ciel qui, ça y est, les gens acclament le Seigneur. Et non, c'était pas les mêmes. Je crois qu'une boule ronde venait de rentrer dans une cage avec des filets, vous savez. Et puis ça s'appelle ça un but dans le langage du football. Et alors une ovation, mais comme si le monde était renversé parce qu'un petit machin rond était rentré dans... Et j'avais ce contraste qui était là, et je pensais à Pascal en me disant, quand même, il avait raison, le cher Pascal. Rien les divertit, une foule, je ne sais pas comment ils étaient, des dizaines de milliers de spectateurs qui étaient là. On était une poignée d'un certain âge, on détonnait dans la cathédrale, on était un peu les plus jeunes, notre petite équipe. Une tiédeur qui est là, qui va venir d'une inattention, d'une non-vigilance, d'une distraction, d'une imagination qui va partir de tous les côtés, qui nous fait perdre le sens de l'instant présent. Il y a aussi la perte de l'exigence, voyez-vous. Je crois qu'on oublie si souvent que notre foi, c'est lui. On parle beaucoup du célibat des prêtres ces temps-ci, et m'est revenue une histoire il y a quelque temps en arrière que m'avait raconté l'évêque de Phnom Penh, l'évêque du Cambodge, donc Mgr Ramus, qui lui-même a été beaucoup persécuté. Vous savez que le Cambodge a vécu une des tragédies et des persécutions énormes. En l'espace de 4 ans, on a tué 2 millions d'habitants sur 8 millions de personnes. Donc un quart de la population a été massacrée en 4 ans. Et les chrétiens ont été bien sûr les premiers persécutés. Il y a eu des signes d'héroïcité, de témoignage de foi qui étaient bouleversants. Un jeune prêtre, oui, il avait 37 ans, je crois, a été ordonné clandestinement évêque. Il était l'évêque du lieu. Et puis son frère était prêtre aussi. Un jour, les Khmer Rouges les viennent dans le village de ce jeune prêtre et lui dit, voilà, on t'oblige de te marier. Dans 3 jours, si t'es pas marié, on te tue. Il rassemble son conseil de communauté, ils en parlent. Puis que sa communauté dit, ben, écoute, tu prends une femme chez toi, tu fais semblant, voilà, il y aurait bien une fille du village qui viendra habiter chez toi, puis voilà, puis la fidélité sera là, les apparences te permettront de rester en vie, tu continueras à célébrer la messe pour nous. Et puis il va trouver son frère qui avait été ordonné évêque, donc son évêque, son propre frère de sang, et il lui dit, voilà ce que les Khmers me proposent, voilà ce que ma communauté me dit, et toi qui es mon évêque, qu'est-ce que tu me dis? Oh, lui dit son frère, moi je te dis rien, je te montre ça. Tu es le disciple, il lui montre la croix, et il dit, voilà, tu es le disciple, nous sommes les disciples de celui-ci. Alors choisis maintenant, en regardant la croix. Et quand ils sont venus, les Khmers rouges, quelques jours plus tard, il a dit, non, je refuse même de faire semblant. Ils ont rassemblé la communauté, ils l'ont mis devant la communauté, ils l'ont tiré dessus en commençant par les jambes, comme ça. Et ils l'ont tué, comme ça, devant la communauté.